Bonsoir, comment allez-vous ? À 2 semaines de la fête des mères, contestée par les uns, respectée par les autres, nous allons justement parler des mamans. Qu'est-ce qu'une bonne mère ? Une mère suffisamment bonne, disait Winnicott. Une mère qu'on veut tuer ou épouser, selon que l'on soit une fille ou un garçon, d'après la psychanalyse. La littérature nous a présenté des mères terribles, comme Madame Lepic ou bien la folle coche d'Hervé Bazin. Éric Orsenna nous décrit une dame, disons, de caractère, qui réjouit le lecteur en traversant la France en 2 chevaux. Et on se demande toujours d'ailleurs quelles fêlures ont bien pu déclencher un humour aussi ajusté. Suffisamment bonne ou horriblement cruelle, une mère habite toujours nos pensées d'adultes. Sabine Melchior-Bonnet, en bonne historienne, n'a pas fantasmé mais enquêté sur les mères des grands hommes, aimantes, absentes, intrusives, changeantes, autoritaires, perverses ou dévouées. Sabine Melchior-Bonnet, entre Françoise Dolto et Alexandre Dumas, nous aide à comprendre comment ces grands hommes sont entrés dans l'histoire, grâce ou malgré leur mère.
France Inter, État d'esprit, Noël Bréham.
I have a dream.
J'ai fait le rêve que mes petits-enfants ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur caractère. Je résume un petit peu. C'était Martin Luther King le 28 août 1963, après la marche contre les discriminations raciales devant un parterre de 250 000 personnes. Nous sommes toutes les deux toutes seules dans ce studio. Sabine Melchior-Bonnet, bonsoir.
Bonsoir.
En régie, il y a du monde. Vous êtes Sabine Melchior-Bonnet, historienne au Collège de France, spécialiste de l'histoire des sensibilités et des femmes, spécialiste de l'Ancien Régime. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'une histoire du miroir chez Hachette Littérature, d'une histoire du mariage chez Robert Laffont, d'une histoire de la femme de 50 ans chez La Martinière. Et là, vous nous parlez des grands hommes, les grands hommes et leurs mères, et c'est édité chez Odile Jacob. Et oui, les grands hommes ont des mères. Certaines sont très connues, comme peut-être la mère de Napoléon, ou bien la mère de Néron, vous les évoquez d'ailleurs toutes les deux dans votre livre. On connaît moins la mère de Martin Luther King. La voix de Martin Luther King, ça fait quelque chose, hein ?
Oui, ça fait quelque chose, et je pense que toutes les mères peuvent dire « I have a dream ». Il y a votre rime pour mes enfants et pour le peuple.
Et toutes les mères peuvent dire ce que vous citez au début du chapitre. Il ne faut jamais te laisser aller à penser que tu es moins que quiconque. C'est ce que lui disait sa mère.
Oui, quand il découvre pour la première fois de sa vie, quand il est tout petit garçon, après avoir eu une vie, une enfance des plus heureuses, il découvre à 7 ans, quand il doit aller à l'école pour la première fois, que l'école des noirs, des petits garçons noirs, l'école des petits garçons blancs n'est pas la même et qu'il doit se séparer de son meilleur ami. Et ce meilleur ami qu'il aimait beaucoup, le père de ce meilleur ami a dit à son fils « Tu ne joues plus avec le petit Martin, le futur Martin Luther King. »
Tu ne joues plus avec le petit Martin juste parce qu'il est noir.
Juste parce qu'il est noir. Donc c'est la ségrégation que l'enfant découvre très très tôt et qui le rend fou. À un moment, il dit « Mais je hais les blancs, en fait. »
Ouais.
Et puis petit à petit, sa mère lui explique que sa dignité n'est pas entamée et son père, qui est un pasteur noir, qui est très écouté dans l'église où il est pasteur, le père est lui-même s'occupe d'une association qui lutte contre
la ségrégation. Déjà, on est en quelle année à peu près, Sabine Melchior-Bonnet ?
Alors, il naît en 28.
Martin,
donc il entre en classe à peu près en 35.
Ouais.
Et ses premières expériences à Atlanta sont celles quand il a 8-10 ans. Il découvre ce que c'est que d'aller acheter des chaussures dans un magasin spécial, ou en tout cas de s'asseoir dans un endroit spécial pour un petit garçon noir. Il découvre beaucoup de choses, que les cafés lui sont interdits, que boire dans la fontaine lui est interdit, que d'aller dans un tram ou dans un autobus, il faut s'asseoir à des places particulières.
Réservées aux Noirs. La fameuse histoire de cette dame qui s'est assise à la place.
Qui, elle, date de 1955 et qui est vraiment le moment où il s'engage complètement.
Ah, et alors, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on apprend dans votre livre, pourtant on connaît bien l'histoire de Martin Luther King, c'est que sa maman, puisque votre livre est consacré aux mères des grands hommes, a été aussi assassinée.
Oui, c'est cette unité de destin qui m'a touchée le plus, c'est de se dire que il est mort en 68 et sa mère est morte 5 ans après et que elle était en train de jouer à l'orgue de l'église de la ville et il y a un garçon assez jeune, noir, qui a tiré sur elle et qui d'ailleurs a également touché une voisine. Elle est morte. On pense que le garçon était complètement dérangé. En fait, c'est pas un crime passionnel ni un crime contre les noirs particulièrement puisque lui-même est noir.
C'est un crime de déséquilibré.
De déséquilibré, peut-être contre la religion, c'est ce qu'on a dit.
Alors, puisqu'on parle de Martin Luther King, il y a également, État d'esprit, c'est une émission qui se tourne parfois vers la spiritualité, vers les mystères et les profondeurs du monde. Vous parlez également de la mère de Saint-Augustin, pas très rigolote.
C'est une forte femme, ah, c'est-à-dire qu'on en a fait la patronne des mères, mais pas des mères douces et qui ne disent rien à leur enfant. Non, c'est une mère qui a essayé de vraiment d'infléchir la vie de son fils. Elle était chrétienne dans l'Afrique qui est à ce moment-là traversée par des tas de courants religieux. Son mari est un municipe romain qui est chargé de prélever les impôts. Et elle veut absolument que son fils soit chrétien. Et à cette époque-là, on ne baptise pas les enfants petits, on les baptise quand ils sont jeunes gens, ils savent adulte. Ce qu'ils font.
C'était presque marginal d'être chrétien là, à cette époque-là.
Oui, il y avait beaucoup de sectes. Oui, c'était tout à fait marginal. C'était le début du christianisme. Il y a eu un siècle avant, deux siècles, il y a eu les grands martyrs. Mais c'est vrai que c'est une Afrique très partagée, sous la coupe romaine qui n'est pas chrétienne, avec beaucoup de sectes, et en particulier les manichéens. Et donc, la mère découvre vite qu'Augustin, il a un grand penchant pour le jeu, pour s'amuser, pour le plaisir, et elle cherche à le rattraper tout le temps et à le ramener à la fois. Mais elle le fait d'une façon très volontaire et il en a assez. Donc il s'échappe et ils sont ensemble à Carthage et ils décident de partir pour Rome. Et elle est avec lui et il profite de ce qu'elle dort, qu'elle s'est endormie dans une chapelle pour prendre le bateau et pour partir comme ça sans tambour ni trompette. Et elle le rejoindra, elle a quand même 50 ans, donc à cette époque-là c'est une femme âgée.
50 ans, c'est une femme âgée.
À cette époque-là, oui. Et donc, elle prend le bateau dans des conditions, elle voyage sur le pont, et elle arrive à Milan, d'ailleurs, ils vont à Milan, pour essayer de le récupérer. Et elle y arrive.
Et elle y arrive, oui, puisque c'est devenu Saint-Augustin. Voilà. Vous avez cité les manichéens, il aimait ce courant,
il trouvait que c'était un courant plus rationnel que ce qu'il lisait dans la Bible. En fait, c'était quelque chose de cet ordre-là.
Ça vous choque si on dit, Sabine Melchior-Bonnet, que Saint-Augustin doit sa carrière à sa mère?
À sa mère ou contre sa mère? Peut-être les deux, parce qu'en fait, il lit beaucoup et c'est un philosophe. Il est philosophe avant d'être chrétien. Mais j'aime beaucoup cette phrase, si vous me permettez. Pour être un bon chrétien, il faut d'abord être un bon athée.
Ah oui.
C'est pas lui qui a dit ça, mais je trouve que ça peut s'appliquer aussi.
Ça peut s'appliquer à sa vie.
Il a beaucoup regardé partout, dans tous les courants possibles, avant d'être chrétien, donc on sent que sa foi est vraiment bien installée.
C'est un vrai choix.
C'est un vrai choix.
Connaissez-vous la chanteuse Camille? Elle a déclaré au journal Télérama cette belle chose: j'ai besoin de solitude, d'ennui et de doute. Camille sera en concert à la Cigale à Paris du 6 au 9 juin et puis en tournée jusqu'au mois de février 2018.
État d'esprit sur France Inter.
Nous parlons des mères ce soir, des mères, des grands hommes. Entre fête des mères et élections, ça tombe bien, Sabine Melchior-Bonnet. Les grands hommes et leurs mères, c'est édité chez Odile Jacob, c'est votre dernier livre. Alors on apprend, mais c'est extraordinaire, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était entre Alexandre Dumas et Dolto. Ce sont vraiment des chapitres absolument passionnants. Le petit Louis XIII, fils d'Henri IV, pas si facile sa vie, pas si facile son père.
Être une mère régente, c'est tout de même plus compliqué que d'être une mère ordinaire.
Ouais, d'abord, elle est étrangère.
Elle est étrangère, elle est italienne, c'est une mama florentine qui va mettre beaucoup d'enfants au monde. Et c'est essentiel quand on est femme épouse de roi, c'est de mettre des héritiers au monde.
Donc c'est ça, son job.
C'est son job. Elle a bien accompli son job puisqu'elle a fait plusieurs enfants. Et son préféré, c'est Gaston, c'est le frère cadet, c'est pas du tout le petit Louis. Tant qu'Henri IV vit, l'enfant est vraiment très, très entouré, parce que le père est passionné par les enfants.
Le père adore les enfants, il est gentil avec eux, mais en revanche, avec son épouse Marie de Médicis, puisqu'il s'agit d'elle, il la maltraite presque quand on vous lit.
D'abord, il lui impose ses maîtresses, ce qui est assez désagréable pour l'épouse légitime.
Carrément, à demeure.
À demeure. Ensuite, il se dispute souvent.
Oui.
Il se dispute souvent parce qu'il il dit, au fond, il aime les femmes qui lui obéissent. Et c'est vrai que Marie de Médicis a sa propre volonté. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise mère. C'est une mère de l'époque. Hein. Il faut bien voir que la notion de mère, elle évolue à travers les siècles. Et à ce moment-là, on ne demande pas à une mère d'être une tendre. D'abord parce qu'elle ne l'allaite pas et que c'est généralement les nourrices. Et le petit Louis va adorer sa nourrice Doundoun. Oui. Il couche dans sa chambre, il la voit beaucoup plus souvent que sa mère.
Vous dites qu'il voit sa mère tous les quatre matins, c'est pas une expression?
Non, c'est vraiment ça. Mais elle est même plutôt une mère plus présente que bien d'autres dans l'aristocratie. Elle a beaucoup de devoirs d'apparat. Donc elle voit son fils plutôt plus que Henri IV. Simplement, Henri IV, lui, il assume la royauté. Et donc, c'est normal. Et en même temps, Henri IV joue beaucoup plus avec ses enfants.
Voilà, vous dites c'est un papa poule pour l'époque.
Exactement, là, oui. C'est un papa poule. Et il est très conscient de ce que son fils va régner un jour. Donc, à la fois, il essaye de dialoguer avec lui pour lui apprendre à argumenter. En même temps, il joue, ils vont se promener sur le canal, faire du bateau. Ils jouent beaucoup ensemble. Et puis, en 1610, Henri IV meurt et donc à ce moment-là, il se retrouve entre les mains des précepteurs. Le petit Louis se retrouve avec déjà les...
Il a quel âge quand son père meurt?
Il est né en 1600, donc il a 10 ans. Ouais, il a juste 10 ans.
Et c'est là que ça commence à mal tourner pour Louis, parce que finalement, cette Marie de Médicis, qui était écrasée par Henri IV, quand Henri IV n'est plus là, elle se réveille, elle cherche de l'aide.
Elle cherche de l'aide. Elle a en principe le rôle d'une régente, c'est de restituer à l'enfant mineur le royaume tout à fait dans l'état, ou même mieux, dans lequel elle l'a trouvé. Or, en 4 ans, elle va absolument dilapider le trésor. Elle va s'entourer de sa espèce de mafia italienne de Florentine, dont elle fait Madame Galigai, c'est une espèce de suivante qui va lui donner les plus mauvaises idées qu'on peut avoir. Et surtout, Concini, qu'elle fait maréchal, ce qui est un titre absolument tout à fait exceptionnel. Or, c'est une espèce de mafia. Et ensuite, elle va alimenter un peu les guerres civiles en faisant des clans. Et elle ne poursuivra absolument pas la politique de Henri IV. Or, une régente, elle est destinée à ça, à faire une sorte d'intérim. Et c'est un rôle assez difficile pour elle, parce que elle a un pouvoir immense pendant les quelques années où son fils n'atteint pas la majorité, qui est à 13 ans. Et en même temps, elle est une sujette comme les autres, donc elle est en porte-à-faux.
Alors pourquoi s'est-elle tellement embrouillée avec son fils Louis XIII? Et pourquoi Richelieu, quel rôle joue-t-il?
Elle aime le pouvoir pour le pouvoir. En principe, une régente doit donner le pouvoir à son fils et aux conseillers de son fils. Or, elle le garde pour elle.
Ah, voilà,
et
c'est
par
ça,
ailleurs,
l'histoire.
Elle préfère de beaucoup le petit dernier, Gaston, qui est un enfant plus expansif, alors que Louis XIII est tout de suite un enfant qui est très solitaire, qui est méfiant, qu'on n'entoure pas de gens qui peuvent le stimuler, on lui donne... Bon, il se trouve un grand ami qui est Luynes, dont la passion est la chasse. En fait, on ne fait rien pour en faire un vrai prince capable de gouverner.
Il n'a pas été formé.
Il n'a pas été formé et il se replie sur lui-même. On ne peut pas dire qu'il est jaloux parce qu'il sait qu'il est dans une position irremplaçable, qui est celle de l'héritier du roi. Mais en même temps, il n'a pas d'amis, sauf ce Luynes.
Alors, sa mère, donc Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, est-ce qu'on peut dire qu'elle n'aime pas son fils, qu'elle préfère le pouvoir? Elle veut se venger d'avoir une jeunesse difficile avec Henri IV? Elle veut se...
Je ne pense pas qu'il y ait une notion de vengeance. Je pense simplement qu'elle ne se sent pas tellement acceptée. Vous savez, elle parle le français très très mal. Hein. Elle a un accent italien à couper au couteau. Elle veut le pouvoir. Je crois vraiment que le pouvoir, c'est-à-dire l'argent, c'est la puissance qu'on a sur les autres. Et puis elle préfère tellement Gaston que le petit Louis ne peut pas ne pas en souffrir.
Donc finalement, le jeu, vous dites que Louis XIII, il va falloir qu'il cesse d'être un fils pour devenir roi. Ce sont vos mots.
Oui,
donc,
ce sont les mots qu'il dit d'ailleurs.
Ouais,
à un moment donné,
lui,
il le dit, c'est que il doit se débarrasser de sa mère. C'est pour ça que j'ai intitulé ce chapitre « Comment se débarrasser d'une mère sans la tuer ?» Donc il va l'envoyer en exil, mais parce qu'elle aura multiplié les pièges, les coups, enfin, pour garder le pouvoir.
Donc ça va être une guerre sanglante entre la mère et le fils et la mère.
Sanglante en intention, parce que matériellement, il s'efforce de lui donner de quoi vivre. Alors, au lieu de rester en exil dans un château français, elle va partir à l'étranger. Et à ce moment-là, on peut la soupçonner de fomenter des guerres. Enfin.
Il l'a quand même enfermée en France, dans un château.
Oui, enfermée, elle était... Oui, est-ce qu'on peut dire ça? Elle avait elle-même sa petite cour, enfin, elle n'était pas privée de tout... Mais elle s'est sentie enfermée, vous avez raison.
Sabine Melchior-Bonnet, dans ce livre « Les grands hommes et leurs mères », édité chez Odile Jacob, c'est sanglant entre Louis XIII et sa mère Marie de Médicis. En revanche, ce n'est que tendresse entre Anne d'Autriche et son petit Dieudonné, ce petit Dieudonné qui est né très tard.
Après 27 ans de mariage.
Après 27 ans de mariage,
oui.
Ça donne de l'espoir à ceux qui espèrent un enfant.
Oui, enfin, elle a une vie très triste parce qu'elle épouse Louis XIII quand ils ont tous les deux 15 ans. Il n'est pas porté du tout sur les femmes et il a peur des Espagnols et de toute la smala qu'il y a derrière. Et donc, leur relation... se sont assez vite détériorés.
Donc Louis XIII s'entend mal avec son épouse.
Quand il s'entend bien avec son épouse, il s'entend mal avec sa mère et vice-versa. Ah. Quand il s'entend bien, enfin je caricature un peu, mais il y a quelque chose comme ça. Ces femmes lui font peur. Et toute sa confiance, Louis XIII, il la donne à Richelieu. Donc quand Louis XIII meurt, et Louis XIII meurt un an après Richelieu, tout d'un coup Anne d'Autriche se retrouve régente à son tour, d'un petit garçon qui s'appelle Dieudonné, dont elle a attendu la naissance pendant vraiment très longtemps.
Il faut dire qu'il y a des histoires un petit peu froute-froute dans votre livre. Louis XIII et la belle Anne d'Autriche, leur nuit de noces, elle est juste abominable. D'abord c'est en public.
Ils ont 15 ans.
Ils sont assez maladroits.
Et la seule chose qu'on veut, c'est d'être sûr qu'il y aura une alliance entre l'Espagne et le royaume français.
Mais ça les a complètement traumatisés,
certainement. Ouais. Traumatisés. Et on connaît très bien la vie de Louis XIII parce que son médecin, qui était Rohard, a noté absolument jour par jour tout ce qui se passait, y compris à ce moment-là, quand Louis XIII a déjà 20 ans. Et c'est Rohard qui pousse Louis XIII dans le lit de
Anne d'Autriche. Ah oui, qui lui dit, il faut y aller maintenant. C'est bon pour vous, les historiens, ça, quelqu'un qui note tout.
Oui, c'est exceptionnel.
Alors, peut-être on en reparlera un petit peu tout à l'heure. On va quand même juste dire qui est ce petit Dieudonné.
Alors, c'est le futur Louis XIV. Voilà. C'est Louis XIV dont l'éducation est faite par Anne d'Autriche et surtout par Mazarin.
Donc, c'est Mazarin qui va beaucoup aider Anne d'Autriche. Ils s'entendent bien, d'ailleurs. Ils s'entendent bien, non?
Je ne m'avancerai pas sur ce terrain. Laissons à l'histoire ces petits mystères.
Oui.
En tout cas, Mazarin a été certainement quelqu'un de très, très important dans l'éducation de Louis XIV. Et l'histoire que je mentionne, c'est Mazarin fait venir ses petites nièces à Versailles.
Dont la petite Marie.
Enfin, c'est pas à Versailles encore, c'est au Louvre. Ouais. Et dont la petite Marie, dont Louis XIV va tomber fou amoureux. Non pas parce qu'elle est exceptionnellement jolie, mais parce qu'elle a un franc-parler. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le parler de la cour, elle dit ce qu'elle pense. Et je pense que ça surprend le jeune roi.
Et là, sa mère fait un truc atroce.
Atroce, atroce peut-être du point de vue sentimental d'un adolescent, mais elle a tout à fait raison, c'est qu'elle sait que pour être un bon roi, il faut d'abord préparer des alliances par le mariage et surtout ne pas se laisser guider par ses sentiments et ses impulsions.
Donc elle sépare les amoureux.
Elle les sépare, mais elle fait ça tout à fait correctement. Simplement, elle veille à ce que Marie ne vienne pas faire obstacle à la vie de son fils.
Elle l'envoie à La Rochelle ou je sais pas.
Elle l'envoie dans un château à La Rochelle, d'où elle se mariera après. Elle n'aura d'ailleurs pas une vie très heureuse.
Elle dira, comme beaucoup de mères disent à leurs enfants, tu me remercieras plus tard.
Absolument.
Ce qui est dit.
Madame, nous avons les témoignages de Madame de Motteville, qui est au palais, dame de palais, et qui donc raconte aussi absolument l'éducation, la croissance de Louis XIV. Et...
N'empêche que Louis XIV accompagnera sa mère jusqu'à ses dernières heures. Vous racontez qu'il tire un matelas à côté d'elle à la fin de sa vie, quand elle était si malade.
Oui, elle a un cancer du sein. Sagesse, elle se retire dans un couvent 2 ans avant de mourir. Donc elle ne veut pas empiéter sur la vie de son fils. Et quand son fils épouse Marie-Thérèse d'Espagne, donc... elle ne veut surtout pas être la belle-mère qui pourrait... Elle a tellement souffert de sa propre belle-mère qu'elle ne veut pas faire jouer ce rôle-là. Donc elle se retire dans un couvent et elle est très pieuse. Donc son fils vient la voir et quand on apprend sa maladie, il reste auprès d'elle le plus possible.
Et il va la pleurer...
Les deux frères d'ailleurs.
Ouais. Et son frère aussi va pleurer sa mère.
Et son frère aussi, oui.
Comme quoi Sabine Melchior-Bonnet, dans l'histoire, il y a des bonnes mères. Il y a des bonnes mères, il y a aussi des bons fils. Nous allons tout à l'heure parler d'un fils absolument terrible. Nous verrons avec vous, Sabine Melchior-Bonnet, comment était la mère de Staline. Gorillaz, Andromeda, qui sera au Zénith à Paris le 24 novembre 2017.
Le 11 décembre, à la réunion préélectorale dans le Grand Théâtre, le pays entier écoute le discours du camarade Staline.
Vous pouvez être certain que le camarade Staline saura remplir son devoir envers le peuple, envers les travailleurs.
En pleine période électorale, Staline ne parle que de l'État démocratique qu'il a créé. En réalité, la politique de Staline est à l'apogée de la terreur. Ce sont les années 1937-38. On fusille en moyenne 4000 personnes par jour. La veille de son discours, Staline avait déjà signé la liste des futurs serviteurs du peuple dont la soumission lui garantissait le pouvoir absolu.
Voilà, c'était la voix de Staline, donc le 11 décembre 1937, vous l'avez entendu, présentée dans un film de la collection Films et Documentaires.com. Nous parlons sur France Inter, dans État d'esprit, ce soir, avec vous, Sabine Melchior-Bonnet, des mères, des grands hommes. C'est le titre de votre livre édité chez Odile Jacob, Les grands hommes et leurs mères. Et dedans, il y a Staline. Et alors, c'est extraordinaire, Sabine Melchior-Bonnet, je ne pensais pas qu'un jour dans ma vie, j'aurais pitié de Staline.
Vous êtes une bonne âme et un bon cœur. Moi, j'ai pas du tout pitié de lui. J'ai pitié d'un petit garçon dont le père, manifestement, qui était cordonnier, se met à boire parce qu'il réussit pas comme il veut. Dont la mère est une femme sûrement très solide et qui veut pour son fils quelque chose de brillant, puisqu'elle va veiller quand même beaucoup à son instruction, à son éducation. Elle lâchera pas. Le père voudrait bien qu'il ne fasse pas d'études et qu'il soit cordonnier comme lui. Alors que la mère sait que c'est par l'instruction. La mère, c'est une famille qui a été serf, qui a été libérée.
Pauvre, oui.
Pauvre, et puis surtout, on dirait esclave. Enfin,
oui. Ça, c'est la mère.
Ça, c'est la mère. Kéké, c'est-à-dire Ekaterina. Et donc, cette mère veut que son fils soit instruit. Mais alors, bon, le petit garçon Staline, il a eu très vite la variole, donc il a la figure avec des trous.
Il s'appelle pas Staline, il a un nom mignon, il s'appelle Soso.
Il s'appelle Soso. Mais c'est vrai que Soso est un gentil petit garçon. Il aime les oiseaux, il aime les jardins, il est très solitaire, il a peu d'amis.
Vous disiez qu'il n'était pas beau.
Il n'est pas beau, il restera petit. Il a un pied palmé, ce qui est étrange. Ça ne se voit pas, mais c'est étrange. Il a un ou deux accidents qui fait qu'il a le bras, qui n'a pas la mobilité qu'il devrait.
Je vous ai coupé, mais vous disiez qu'il avait le visage marqué.
Il a le marqué par la maladie, donc des trous. Ouais. Il a un teint qui n'est pas beau, il a des cheveux roux, enfin... Donc non, il n'est pas séduisant du tout. Mais il est très intelligent et je crois qu'il a beaucoup de mémoire. Donc il réussit tout de même bien puisque finalement les études primaires, on le pousse à faire des études supérieures, secondaires. Enfin, et ces études secondaires, elles se font au séminaire.
Son père, qui a eu beaucoup de déceptions, boit et cogne. Ce qui est quand même pas très heureux pour ce petit bonhomme.
Pas très heureux, mais qui est peut-être
bonhomme.
Plus habituel qu'on peut le penser aujourd'hui. Je crois que c'est assez fréquent. Oui. Il n'est pas seul et tous les enfants battus ne deviennent pas des Stalines.
Alors, sans vouloir faire de la psy de comptoir, Sabine Melchior-Bonnet, vous dites également que sa maman était jolie et avait ce que vous écrivez des protecteurs. Donc, assez finement, vous laissez un peu planer le doute sur le rôle exact des protecteurs.
Oui, parce que le doute plane. On a dit à un moment donné qu'elle avait été la maîtresse. Elle a eu comme protecteur un commerçant qui avait fait, sinon fortune du moins, qui était devenu riche et qui avait de l'importance dans la ville de Gori où ils habitaient. Il y a eu aussi un chef de police dont on a parlé et dont on a dit que ses enfants ressemblaient au futur Staline. Donc, on peut penser. Mais enfin, rien n'est prouvé. Oui. Et moi, je pense que non.
Fils de son père.
Oui,
officiel.
C'est-à-dire que la mère Kéké a perdu deux petits garçons avant que Staline ne naisse. Mais enfin, bon, il n'y a pas de raison de penser. Elle était en plus assez très pieuse, je crois, d'après ce qu'on dit.
On n'a pas dit que, mais vous l'écrivez, qu'il ne parlait pas russe, le petit.
Ils sont originaires de Géorgie. Ils sont géorgiens. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé justement en Géorgie des tas de documents. C'est un journaliste chercheur russe qui a travaillé sur les archives et qui a trouvé des textes, des entrevues de journalistes qui n'ont jamais été publiés de Ekaterina à la fin de sa vie. Donc on a un autre regard sur elle à ce moment-là.
Ce qui est intéressant, parce que vous écrivez, Sabine Melchior-Bonnet, que Ekaterina, la mère de Staline, qui était une femme qui avait un caractère, si je comprends bien, assez marqué, a communiqué, mais Staline, en revanche, n'a absolument pas communiqué sur son enfance. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien.
Il n'y a rien, non. Il n'y a rien et il a détruit toutes les interviews qu'il a pu donner, par exemple, à une des premières biographies, celle de Joukov. Il a demandé à ce que ce soit détruit non seulement la petite enfance, mais même l'adolescence. Il voulait faire un portrait de lui, de quelqu'un engagé parmi les bolcheviks très tôt, et qui a donc rien sur le séminaire, sur les études.
Et vous parlez donc de ce père violent et alcoolique, de cette mère presque intrusive, elle est tout le temps avec lui, elle est sur son dos en permanence.
Oui, jusqu'à un certain moment donné, parce que le séminaire est à Tiflis, donc elle n'est pas dans la ville de Gori où elle habite. Donc là, il est aux mains des popes, et donc il doit suivre la discipline du séminaire, c'est-à-dire avec beaucoup d'heures de lecture, de prière, de chant, de chorale. Apparemment, il s'en porte pas trop mal au début. Il est même assez apprécié parce qu'il chante bien.
Et puis, il aime chanter.
Il aime chanter.
Staline, il aime chanter.
Il a même écrit des poèmes. Et petit à petit, il y a beaucoup de livres qui, comme dans tous les milieux très fermés, il y a des livres qui s'infiltrent et des livres interdits, bien entendu. Alors, évidemment, les livres interdits aujourd'hui nous font sourire parce que Victor Hugo est interdit, Renan est interdit, mais enfin, il lit aussi Marx. Et ouais, c'est là que petit à petit se forge cette espèce de fureur contre l'éducation qu'il reçoit et contre la différence des classes. Enfin,
et se forge aussi, écrivez-vous, Sabine Melchior-Bonnet, dans ses études, je ne sais pas si ça s'appelle le petit séminaire ou le grand séminaire, mais
oui,
en tout cas,
le séminaire.
Se forge aussi le goût de la dissimulation, de la fourberie.
On a beaucoup dit ça. On a dit que cet apprentissage, l'a beaucoup marqué et qu'il a réutilisé longtemps le vocabulaire qu'on apprend. Par exemple, l'aveu, quand il faut que les condamnés, que ses ennemis politiques, il les fait avouer. Les dénonciations, la délation. Enfin, qu'il y a un certain nombre de. Et à un moment donné, il dit, quand il voit la piété de sa mère, il dit, au fond, si cette piété que on donne aux chrétiens, si on l'avait pour les chefs du bolchevique, ce serait merveilleux, la Russie se transformerait.
Et ce petit Staline n'a pas tellement d'amis, il n'est pas apprécié par ses copains.
Non, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de coups en dessous, c'est-à-dire que il anime beaucoup de bandes. Et il participera à des braquages, mais jamais au premier rang. Ce qui fait qu'à la fois, ça lui permet de ne pas être pris, il peut se défiler, et en même temps, il est très efficace dans ce qu'il fait. Hein. C'est un curieux personnage, parce qu'il n'a aucun charisme, il parle mal quand ses discours sont absolument assommants, et cette carrière quand même exceptionnelle, qui décolle au moment de la guerre de 14, enfin en 18-19, quand il entre dans le bureau du parti et qui devient très proche de la Tchéka et de la police.
Donc voilà, Sabine Melchior-Bonnet, la vie du petit Staline avec, quand même, bon, moi je peux pas m'empêcher d'avoir, oui, Simone de Poux qui est derrière la vitre et comme vous, elle dit, mais quand même, avoir pitié de Staline, faut y aller. Écoutez, je trouve que dans votre livre, vraiment, il est touchant. Nous aurons tout à l'heure un personnage plus grand, plus volumineux que Staline. Nous évoquerons Churchill et sa mère, juste après Alla Bashung. Alla Bashung, qui nous a quittés et qui a été le chanteur le plus primé aux Victoires de la musique.
Volute par ton fumée, volute fond des nuées de scrupules. Volute part en fumée vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances. Me lance des dagues et des lances en toute innocence. Part en fumée, sous les yeux embués, d'étranges libellules. Pour une grimace et un rictus de plus, je fais des heures sous tout, je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Sur des nuages, la marteau au fond du garage. J'cloue des clous sur des nuages, sans échafaudage. Mmh. d'herbes souveraines, pleines, pleines. Volutes partent en fumée, sous des soleils qui s'ignorent, dors, dormez, des réponses allongées, mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient l'air, ces deux hémisphères, par quel mystère. Je cloue des clous sur les nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur les nuages, sans échafaudage.
État d'esprit sur France Inter.
Alors après le petit russe, le petit géorgien, plutôt le grand breton, Churchill, la mère de Churchill, Sabine Melchior-Bonnet. Donc vous évoquez ce grand homme, hein, puisque votre livre s'appelle « Les grands hommes et leurs mères ». Et c'est édité chez Odile Jacob. Écoutons la voix du Premier ministre britannique qui évoque sa maman, qui est américaine, devant le Congrès américain justement. Et nous sommes en décembre 1941, juste après l'attaque de Pearl Harbor.
I wish indeed that my mother, whose memory I cherish across the veil of years, could have been here to see.
C'est émouvant hein, d'entendre
c'est,
la voix.
C'est très émouvant.
D'entendre la voix de Churchill. Alors Sabine Melchior-Bonnet, c'est pas évident la vie de Churchill et sa maman, parce qu'il y a son père est un snobissime anglais, j'ose pas dire anglais, britannique.
Un lord, un grand lord, ouais. Très très proche de la maison royale. Et
sa
la mère
est
américaine. Mais c'est beaucoup d'air frais qui va arriver. Et je pense que Churchill est vraiment l'héritier des deux. Et que Jenny Churchill, qui est une famille donc, qui a été assez fortunée, mais le père a eu des hauts et des bas.
Mais c'est malgré tout un mariage d'amour, écrivez-vous.
C'est un mariage d'amour, absolument. Ils se sont rencontrés sur un bateau et ils ont mis 6 mois à se marier, au point même qu'on ne sait pas si Churchill n'est pas né avant terme.
Enfin, officiellement prématuré.
Officiellement prématuré et probablement conçu avant le mariage. Voilà. Et Churchill, donc le petit garçon, il a bénéficié tout de même de cette double appartenance, parce que sa mère a toujours eu beaucoup de liberté. Enfin, liberté. Il faut se dire que c'est une des familles les plus prestigieuses de l'Angleterre, la famille de Churchill. C'est la famille des ducs de Marlborough. Donc, ils ont des devoirs. Mais comme le père de Churchill n'est pas l'enfant aîné et qu'il y a le droit du fils aîné, ils savent, les cadets savent qu'ils doivent gagner leur vie et qu'ils doivent avoir des postes. Et Churchill sait qu'il n'héritera, il ne sera pas le grand lord propriétaire. Et...
Donc, quand vous dites Churchill, c'est le père de Winston.
Le père et Churchill lui-même. Ils savent que qu'ils auront des métiers à assumer.
Il faudra qu'ils gagnent leur vie.
Qu'ils gagnent leur vie, qu'ils ne seront pas seulement. D'ailleurs, ils ont eu très peu d'argent, en fait, tout le temps. Churchill fils et sa mère, Jenny, se sont battues pour lui faire des articles dans les journaux et elle aussi.
Le grand Winston Churchill, il a horriblement souffert, petit garçon, du manque d'amour, du manque de présence de sa mère.
Oui, il parle d'elle comme d'une étoile filante, c'est-à-dire qu'elle vient un quart d'heure avant de sortir, probablement à la fin de la journée, pour l'embrasser. Il est dans la nurserie, il y a une nounou qui l'adore, heureusement. Et elle part dans tous ses dîners, galas, où elle est en représentation. Donc elle est tout le temps, en plus elle a beaucoup d'amants, elle est très belle, elle est probablement assez libre. Elle découvre assez tôt que son mari a une maladie, peut-être la syphilis, donc ça fait un arrêt dans leur vie conjugale. Alors, Churchill aura un frère d'ailleurs, mais on ne sait même pas s'ils ont le même père, enfin, c'est pas sûr.
Donc, c'est un couple qui bat de l'aile quand même.
Qui bat de l'aile en même temps, elle est très séduisante, elle est très belle, c'est une femme intelligente, donc elle sait ne pas choquer. En fait, tout est permis à condition que ça ne se sache pas ou que ça ne se voit pas, et qu'on tienne aux convenances. Et je crois que c'est peut-être une des conditions qui font que Churchill, ensuite, adulte, a eu sa mère pour amie. Je crois vraiment qu'elle s'est dévoilée comme mère beaucoup plus tard.
Donc en fait, Sabine Melchior-Bonnet, le petit Churchill est plutôt élevé par une nounou, à une maman qui ne vraiment s'occupe pas de lui, ne vient pas le voir quand il est en pension, alors oui. qu'il est tout seul, il est malheureux. Quelquefois, oui. elle dit qu'elle vient, puis elle vient pas, elle se décommande même pas, écrivez-vous.
Oui, il est très malheureux, il est prêt à courir derrière le train quand les rares fois où elle vient, pour revenir avec elle, repartir avec elle.
Donc vraiment, il souffre de solitude, il souffre du manque d'amour de sa mère.
Il n'a pas beaucoup d'amis parce qu'il a un caractère impossible, il est très vite en colère, il est très, très original. Hein. Alors, il y a des professeurs qui ont compris que c'était quelqu'un avec une mémoire exceptionnelle et une intelligence exceptionnelle, mais les corrections en Angleterre, il se fait fouetter tous les jours. Ouais. Donc, c'est une enfance, c'est effectivement difficile. En plus, il a certainement un côté mélancolique.
Son chien noir, c'est sa déprime, en fait.
Voilà, c'est sa déprime. Donc, c'est probablement pas un petit garçon heureux. Mais il a une force de vie et puis il veut faire quelque chose de sa vie.
Son père était écassant également.
Le père est cassant. Le père a eu une très belle carrière politique jusqu'à ce qu'il tombe malade et que là, il soit évincé de son poste. Il voyage beaucoup. Mais vous savez, c'est l'éducation des enfants de l'aristocratie anglaise. Hein. Elle est peut-être un peu plus marquée que d'autres, mais c'est assez banal.
Mais on a l'impression quand même, en vous lisant, Sabine Melchior-Bonnet, qu'il a particulièrement souffert du manque de tendresse de sa mère et du manque d'estime de son père, même si c'était courant à cette époque-là oui. de ne pas voir ses
oui.
parents.
Oui, il voulait que son père l'admire. Or, le père... tout le temps lui reproche pour des raisons diverses. D'abord parce que le père, c'est une maladie qui enlève aussi un peu le bon sens. Et,
la syphilis.
Et, oui. Et donc, quand ils sont en âge de parler d'adulte à adulte, quand il a 16-17 ans, et le père a déjà un peu perdu la tête, et donc il n'arrive pas à trouver ce lien auquel il aspire.
Donc cette mère qui ne s'occupe pas du petit garçon Winston, en revanche, elle assure... Quand il devient jeune adulte, elle l'introduit dans le monde qui peut lui être utile.
C'est-à-dire que Churchill se demande comment faire sa carrière. Et à ce moment-là, ce sont les armées. Donc il essaye d'être un grand militaire. Et c'est vrai qu'il va participer à un certain nombre de campagnes. Il ne faut pas imaginer ça comme l'armée aujourd'hui ou hier. Il prend beaucoup de temps. Il va en Inde, il va en Afrique. Et on découvre que c'est également un grand écrivain déjà. Parce que non seulement il se bat, mais il tient un journal et il envoie des articles aux grands journaux anglais.
Les correspondants de guerre.
Correspondants de guerre, et il a une écriture absolument magnifique.
Ah ouais.
La même que celle de son
de sa biographie.
Orateur. Mmh. Donc il écrit très bien et il va faire sa célébrité comme ça. Et puis, sure. comme il est quand même le fils d'un ministre et d'un grand ministre, il va se présenter à la députation et il va être élu député. Donc sa carrière politique va s'organiser au début du XXe siècle.
Donc ce petit Winston Churchill a été aidé par sa mère, mais sur le tard. Et on n'a pas l'impression, en lisant votre livre, qu'il lui en tienne rigueur.
Il dit, elle est comme ma sœur. Il la prend un peu comme une sœur. Et puis, sa mère a quelque chose de très jeune et de très gai. Elle se remariera, son mari étant mort, elle se remariera avec un garçon qui a 20 ans de moins qu'elle.
20 ans de moins qu'elle et quelques années de moins que son fils
et
aussi.
Quelques années de moins que son fils. Et puis, ensuite, elle aura encore un troisième mari. C'est une femme qui est pleine de vie. Et je crois qu'il lui doit cette espèce de vitalité.
Donc, il a un peu la déprime, son chien noir.
Son chien noir. Il a un sens de sa carrière et de l'État et cette vitalité.
Et aussi cette vitalité, vous avez raison. Alors, puisque vous évoquez les mères sœurs, Sabine Melchior-Bonnet, nous allons tout à l'heure découvrir la mère de Sartre, qui est justement un petit peu comme sa sœur.
By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Times.
rip the ceiling off a church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time.
No Times, c'était Prince.
Noël Bréham, État d'esprit, sur France Inter.
État d'esprit consacré aux mères des grands hommes ce soir, Sabine Melchior Bonnet, et nous écoutons celui que vous appelez Poulou au micro de Jacques Chancel dans une radioscopie de 1973.
Vos parents appartenaient à la bourgeoisie moyenne, votre père, polytechnicien, était officier de marine, il est mort en Cochinchine, vous aviez 8 mois. Ce père, Jean-Paul Sartre, vous a-t-il manqué?
C'est difficile à dire. Je pense que ça a été très important de ne pas avoir de père. Je pense en particulier que un enfant subit toujours l'influence de son père sur le plan des professions, de la propriété que le père a déjà hérité des autres et qui lui font comme un destin. Moi, certainement, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas été commandé, si vous voulez. Ce qui va sans doute donner mon sentiment de la liberté. Donc, je ne peux pas dire que mon père m'ait jamais manqué. Ça a été une photo pour moi dans la chambre de ma mère, et c'est tout.
Sabine Melchior-Bonnet, dans ce livre « Les grands hommes et leurs mères » édité chez Odile Jacob, vous parlez de Jean-Paul Sartre qui partage la chambre de sa mère, effectivement, jeune veuve qui retournait habiter chez ses parents.
Oui, il fallait bien qu'elle vive. Et donc, elle habitait chez ses parents et elle y couchait, la mère et le fils couchaient dans la même chambre. Et Jean-Paul Sartre, Poulou, a toujours pensé au début que sa mère était comme sa sœur.
Elle était jeune ?
Elle était jeune, elle était belle. Quand Sartre dit que son père lui a laissé la liberté, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de complexe d'Édipe, probablement, mais en même temps, il y avait un grand-père, puisque mère et fils habitaient chez le grand-père, et il dit dans les mots qu'il avait les commandements cousus à la peau, enfin, qu'il vivait sous l'autorité de ce grand-père.
C'était pas si commode, le grand-père.
Qui n'était pas si commode, parce qu'il voulait le grand-père était professeur, et il voulait que son petit-fils soit ou professeur, ou à la rigueur écrivain, mais surtout professeur. Donc, il n'a pas eu de liberté. Enfin, il a vécu avec ce vieil homme à côté de lui et cette mère qui était très très jeune.
Et donc, il a vécu comme frère et sœur avec sa mère. Après, bon, sa mère s'est remariée, les choses sont...
Se sont gâtées parce qu'il ne s'est pas entendu du tout avec... Elle s'est remariée, enfin, il avait 13 ans, oui. Et il a arrêté d'écrire les mots à ce moment-là. Les mots s'arrêtent au moment du remariage. Il ne peut même pas parler de la suite.
Tellement c'était douloureux.
Tellement c'était difficile pour lui. Et puis après, il a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il a été au lycée et il a vu que beaucoup d'enfants comme lui ne vivaient qu'avec leur mère parce que le père était à la guerre. Donc c'était la guerre de 14-18. Donc sa vie est redevenue ordinaire. Et on s'est aperçu qu'il était un homme très brillant et qui est devenu le Sartre que nous connaissons.
Donc voilà, Jean-Paul Sartre, sa maman qui était un petit peu comme sa grande sœur. Il y a dans ce livre, sur les mamans des grands hommes, peut-être un chapitre consacré plutôt à un fils. Madame de Sévigné, dont on connaît bien entendu la correspondance avec sa fille, Françoise. Mais elle a un fils, Charles.
Oui, alors ma question c'était pourquoi ne fait-on pas un grand homme? Puisque là j'ai surtout cherché les grands hommes, là je me suis dit, il avait tout pour lui, c'était un garçon beau, intelligent, très cultivé, il voulait être digne de sa mère qui elle avait une intelligence exceptionnelle et une curiosité intellectuelle exceptionnelle. Il était courageux parce qu'il s'est tout de suite engagé dès ses 18 ans et il aimait se battre, il allait droit au feu, enfin c'était pas quelqu'un qui cherchait à être à l'arrière, donc il avait vraiment beaucoup d'atout pour lui. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu ce grand homme, ça reste la question.
Alors, parce qu'elle préférait la fille?
Alors peut-être est-ce une explication. Le mari de Madame de Sévigné est mort quand les enfants étaient tout petits, donc il n'y a pas eu d'homme dans cette famille. Donc c'est elle qui se chargeait de l'éducation. Enfin, il a été évidemment en classe et élevé par un précepteur. Mais il n'y a pas de figure masculine. Je pense qu'il a été tellement admiratif de sa mère qu'il a voulu lui plaire tout le temps. Alors, il lisait, elle était très cultivée, donc il lisait autant, et pour montrer qu'il était à la hauteur. Je pense que c'est peut-être ça qui a éteint cette flamme, et qu'il a trouvé très tard sa voie.
Ça lui a demandé beaucoup d'énergie que de séduire sa mère.
Oui, je pense qu'une partie... Alors, il a eu beaucoup d'aventures amoureuses, qui faisaient rire sa mère, d'ailleurs.
C'est très choquant, vous racontez que le fils raconte à sa mère ses déboires sexuels, la mère les raconte à sa fille, donc à la sœur, et tout le monde rigole.
Ça, c'est les lettres de Madame de Sévigné. Oui. C'est-à-dire, elle a toujours le mot drôle. Bah en fait, elle fait beaucoup d'esprit et beaucoup d'humour, mais c'est une femme profonde, hein, derrière ses côtés comme ça, très, très vivant et qui cherche toujours un peu la moquerie. C'est une femme très profonde, et qui a un vrai sens des destinées, pourquoi est-on fait. Elle a des mots sur la mort qui sont absolument admirables. Elle est très religieuse, plutôt janséniste. Et en même temps, elle est dans le monde. Elle est ambitieuse pour ses enfants. Elle a voulu que sa fille fasse un beau mariage, ce qu'elle a fait. Et elle s'intéresse beaucoup au mariage de son fils. On lui présente des tas de filles et ça ne marche jamais. Jusqu'au jour où le jeune Charles, qui n'est plus si jeune que ça d'ailleurs, trouvera par lui-même la femme qui lui convient.
Par lui-même.
Et la belle-fille aura beaucoup de mal au début à se faire accepter. J'imagine que c'est pas simple aujourd'hui, mais ça ne l'était pas davantage autrefois, surtout quand on a une belle-mère aussi présente.
Et vous dites que donc Charles de Sévigné, le fils de Madame de Sévigné, ne gardera pas rancune à sa mère de lui avoir préféré sa sœur.
Oui, je trouve que c'est une belle âme, parce que Madame de Sévigné aura tout le temps favorisé sa fille qu'elle adorait, que ce soit financièrement ou par son intérêt pour elle, beaucoup plus que pour son fils. Et il acceptera tout ce qu'elle fait. Ouais. Il ne se rebiffera qu'une fois, c'est lorsque sa sœur mettra des bâtons dans les roues à son mariage. Ouais. Et là, elle trouve, il manifestera sa désapprobation.
Donc, c'est le seul chapitre où il n'y a pas un grand homme, mais une grande femme. Enfin, cela dit, c'est un homme qui n'est pas connu, mais qui a de la valeur, hein, Charles de Sévigné. Mais il n'est pas célèbre.
Il n'est pas célèbre et sa valeur, oui, c'est une valeur modeste.
En tout cas, c'est drôlement amusant de découvrir le fils de Madame de Sévigné avec tout ce que nous avons lu sur sa fille. Sabine Melchior-Bonnet, Les grands hommes et leur mère. On n'a rien dit de la maman de Napoléon, de Laetitia. On n'a pas parlé d'Agrippine et Néron, mais tout ça est dans le livre qui est édité chez Odile Jacob. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
D'avoir passé ce moment avec nous. La semaine prochaine, nous recevrons Nicole Bordelot pour l'art de se réinventer aux éditions de l'Homme. Vous pouvez télécharger l'émission État d'Esprit, vous pouvez aller bien entendu sur le site, vous pouvez également partager cette émission avec vos amis. Émission réalisée par Simone Depoux, préparée par Emmanuel Fournier, prise de son Arnaud Caillé, et Muriel Pérez s'est occupée de la programmation musicale. Après les informations, vous retrouverez Brigitte Patient pour Regardez voir. Elle évoquera le festival de mode et de photos d'hier.